La colonisation de Mars, le réchauffement climatique, le nucléaire, l'ARN messager, la 5G ou encore les pesticides, la science s'immisce dans de nombreux sujets qui marquent l'actualité et notre quotidien. Et pourtant, les sciences sont souvent absentes ou maltraitées dans les médias. Trop complexes, ennuyeux et mal maîtrisés par ceux qui doivent en parler, les sujets scientifiques sont parfois sacrifiés au profit de sujets plus sensationnalistes. Pourtant, à l'ère des réseaux sociaux et des théories du complot, le rôle des médias dans la diffusion de l'information scientifique est devenu un véritable enjeu pour la qualité du débat public. Alors, quelle place pour les sciences à la télévision, dans les journaux, à la radio ou sur Internet? Comment en parler correctement et intéresser le grand public? Je m'appelle Josepha Lopez, on fait le point avec mes invités dans La Fabrique du Savoir, un podcast réalisé en partenariat avec l'espace Mendès France.
La Fabrique du Savoir.
Avec moi en studio, trois invités pour ce podcast que nous enregistrons masqué. Léa Bello, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en géophysique, mais aussi vulgarisatrice scientifique. Alors, difficile de citer tous les projets auxquels vous collaborez, mais vous sévissez, comme vous aimez le dire, sur les chaînes YouTube du Monde, Le Vortex, un projet d'Arte, Avide de recherche et Zeste de science pour le CNRS. Bienvenue.
Merci.
À vos côtés, Pierre Barthélémy. Pierre,
bonjour.
Vous êtes journaliste scientifique au Monde et vous avez été l'auteur, je dis « avait été » parce que ça fait quelques mois qu'il n'y a pas eu d'article, de blog, mais le blog Passeur de science.
Il est en sommeil.
Il est en sommeil. À vos côtés, notre troisième invité, Julien Picard-Monnet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de publication et directeur du développement du magazine en ligne Curieux, le média de quatre centres de culture scientifique, technique et industrielle de Nouvelle-Aquitaine. L'ambition de votre média, c'est de démêler le vrai du faux en s'appuyant sur la science, mais aussi de lutter contre les idées reçues. Bienvenue à tous les trois. Donc maintenant que les présentations sont faites, rentrons dans le vif du sujet. Pourquoi parler de science, je dis science au pluriel, dans les médias? Pourquoi parler de science est important, Léa?
Eh bien, c'est important parce que ça concerne tout le monde. Ça fait partie de ce qu'on appelle la culture générale, je crois, en tout cas. Et je pense que peut-être que tous les enjeux sont dans comment on traite de science, comme vous l'avez si bien dit. Et je pense que c'est important de donner de l'information et de décrypter ce qu'on peut entendre pour éviter justement la diffusion de fausses informations, en particulier en ce moment.
Pierre Barthélémy, quand on a préparé cette interview, vous m'avez dit l'influence de la science est partout, dans tous les domaines. C'est pour ça que c'est important de parler de science.
Oui, comme le disait Léa à l'instant, la culture scientifique, en fait, ça fait partie de la culture tout court. Les thématiques qui touchent à la science, où la grille de lecture scientifique est très intéressante, c'est de plus en plus important dans la société, comme vous le disiez, que ce soit les questions sanitaires, évidemment, puisqu'on en parle beaucoup en ce moment, mais la crise écologique, la place des nouvelles techno dans la société... L'énergie, puisqu'on parle aussi du retour du nucléaire, de changement de paradigme énergétique. Et je citerai aussi l'importance du spatial dans notre société, dans nos sociétés modernes, dans la vie de tous les jours. Voilà, on parle aussi de... On a tous un téléphone portable sur soi, mais on oublie aussi que ces choses-là, ça fonctionne avec la mécanique quantique et aussi la théorie de la relativité générale dedans. Donc, il faut bien se rendre compte que toutes ces thématiques-là, si on n'a pas la grille de lecture scientifique pour les comprendre, eh ben on peut se faire manipuler.
Julien Picard-Monnet, sur la place des sciences dans les médias, pourquoi est-ce important?
Alors, déjà, beaucoup de choses ont été dites avant moi, donc c'est compliqué, je ne vais pas être redondant. Mais je dirais juste que actuellement le monde, il est un petit peu angoissant, il est un peu anxiogène, et qu'on a du mal à s'y retrouver avec toutes les informations qui circulent, savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Et grâce, pour moi, la science, c'est un petit peu un phare dans tout ça, un référentiel des faits pour pouvoir me faire ma propre opinion. Et je pense que c'est justement essentiel que les médias s'approprient un peu ces thématiques-là, parce que sinon, c'est d'autres personnes qui le font pour nous, et ce n'est pas forcément vrai.
Alors justement, sur la place des sciences dans les médias, est-ce que vous avez trouvé qu'elle est correctement représentée? Est-ce qu'elle est assez représentée? Comment ça a évolué?
On a vécu quand même quelque chose d'assez important dans le domaine de la santé depuis 2 ans, donc dans beaucoup de rédactions, je sais que des journées scientifiques sont revenues, alors qu'il n'y en avait pas avant. Ça, c'est quelque chose de très
revenu
positif.
Revenu sur le devant de la scène,
en revenu dans les rédactions, en fait, parce que au Monde, vous avez quelqu'un, mais c'est pas le cas de tous les médias. Donc, dans beaucoup de médias, il y a de nouveau des journalistes scientifiques qui sont présents. À mon sens, c'est quelque chose de bien. Après, la façon dont la science est traitée dans certains médias me gêne un peu. Notamment, la différence entre science et recherche, par exemple, n'est pas très claire. Et donc, du coup, quelquefois, en voulant faire bien, du coup, on fait mal, parce que du coup, le cadre n'est pas très bien défini, et les personnes de l'autre côté prennent pas l'information comme il faudrait le prendre.
Pierre Barthélémy, donc vous êtes journaliste Science au Monde, on a parfois l'impression que seule la médecine ou éventuellement l'astronomie sont les grands sujets de science qu'on met en avant et qui sont présents en tout cas dans les gros médias. Pourquoi il y a certaines sciences, certaines disciplines qui sont un peu délaissées parce qu'il n'y a pas de gens pour les traiter ?
Dans la plupart des grands médias, en particulier à la télévision et même aussi sur les radios et aussi dans certains journaux, comme on le disait à l'instant, il n'y a pas ou il n'y a plus de journalistes scientifiques. Ça a disparu parce que un manque de curiosité des journaux, des rédactions en chef. Effectivement, comme vous le disiez, on se contente de couvrir les gros sujets, ceux qui font beaucoup de buzz. Alors là, effectivement, on a une pandémie depuis bientôt 2 ans. Et effectivement, l'astronomie, par exemple, c'est une des disciplines scientifiques qui sont très populaires. Je pourrais en dire autant de l'archéologie. Mais en fait, si on regarde bien, les gens s'intéressent à tout. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir que les lecteurs, quand on analyse un petit peu ce qu'ils regardent dans ce qu'on leur propose, ils aiment tout. Donc en fait, je pense que tous les médias devraient faire davantage et faire aussi, surtout, ce que j'appelle un suivi de fond de l'actualité scientifique. Pas juste se contenter de picorer ça et là les gros sujets qui font du buzz, quoi.
Léa, je vous voyais incliner la tête tout à l'heure quand Julien parlait et mettre en avant la science et la recherche, qui n'étaient pas toujours très différenciées. Vous, c'est ce que vous m'avez expliqué aussi, et on parle souvent du résultat et pas forcément de la recherche.
Oui, ça rebondit d'ailleurs sur ce que Pierre venait de dire. En fait, souvent, dans les médias, on va dire, on traite la science par le biais du résultat. On n'explique pas forcément comment on en est arrivé là. Et d'ailleurs, c'est souvent ce que le public a été, en tout cas, il a été habitué à attendre. Et donc, quand on se retrouve à devoir expliquer aux gens que, en fait, on est face à, par exemple, une maladie qu'on ne connaît pas encore bien et que la science est en train de se faire, les connaissances sont en train de se construire autour de cette notion-là, de ce virus-là. Je prends évidemment l'exemple du coronavirus. Ça devient assez catastrophique parce qu'on ne sait plus comment l'expliquer. Et surtout, les gens attendent uniquement des réponses claires, simples, définitives. Et on ne peut pas les leur apporter parce que la recherche, c'est pas le résultat. La recherche, c'est tout ce qu'il y a en amont pour arriver jusqu'au résultat. Et donc, forcément, quand on a éduqué les gens à n'attendre que le résultat et qu'on est obligé de leur dire qu'on a des tas d'incertitudes et qu'on ne connaît pas le résultat, eh bien, ils vont plus facilement se tourner vers des théories qui leur donnent justement une réponse simple, claire et définitive, et puis ou des médicaments miracles, ou enfin toutes sortes d'idées qui permettent de compenser cette absence de notion définitive, oui, de consensus scientifique qui n'est pas encore là, ou en tout cas de connaissances claires autour d'un sujet.
Julien Picard-Monnet, vous la ressentez, cette culture de l'immédiateté ?
Oui, alors après, ça peut se comprendre, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit encore une fois, je trouve que le climat est un peu anxiogène, avec plein de sujets qui nous laissent penser que le futur va être un peu compliqué. Et donc, quelquefois, notamment dans le domaine de la santé, on a envie de connaître, savoir si le prochain variant est vraiment plus dangereux que le précédent. Et donc, c'est vrai que quelquefois, on a envie, même moi, à titre personnel, d'avoir des réponses rapidement. Sauf que moi, je sais que globalement, ça va être compliqué de les avoir tout de suite, mais le grand public n'a pas cette culture-là, et je pense que c'est à notre rôle aussi d'expliquer un peu plus comment ça fonctionne, en fait, et le cadre. Et donc, peut-être aussi donner un peu plus la parole aux chercheurs, et les vulgarisateurs, les journalistes également, mais aussi aux chercheurs, et je pense que ça manque aussi un petit peu les vrais chercheurs qui travaillent, pas ceux qui traînent tout le temps dans les interviews, ceux qui vraiment travaillent vraiment et qui travaillent vraiment sur ce sujet-là, quoi. Je pense que ça serait intéressant de leur donner la parole un peu plus.
Vous faites tous les trois de la vulgarisation scientifique, à des degrés différents, sur des médias différents. Mais vulgariser, ça ne veut pas forcément dire simplifier à outrance. Comment on trouve ce juste équilibre et comment on aborde les sujets scientifiques pour parler au plus grand nombre, Pierre ?
La vulgariser, effectivement, la plus grande des difficultés là-dedans, c'est de savoir où est-ce qu'on met le curseur de la vulgarisation. C'est un mot que j'utilise souvent, le curseur, mais si on le met trop haut, les gens vont s'arrêter tout de suite de lire parce qu'ils comprendront pas. Ils vont se dire que ce n'est pas pour eux, ça va leur dire « ah, ça me rappelle le lycée où je comprenais pas », etc. C'est vraiment un vrai problème hein, d'essayer de combattre les a priori qui chez certaines personnes datent du collège ou du lycée. Il y a plein de gens qui me disent mais les sciences c'est pas fait pour moi. Alors qu'en réalité si on sait leur expliquer la science c'est pour tout le monde évidemment, il y a pas d'exception. Et en revanche si on place le curseur trop bas, si on fait du simplisme, si on simplifie trop, il y a tout un tas de lecteurs qui vont trouver que effectivement on les prend pour des andouilles. Donc il faut toute la difficulté et je dirais aussi toute la beauté de ce métier, c'est de trouver la bonne distance, le bon endroit où on met le curseur, et puis aussi la façon de le raconter. Quoi. C'est trouver le bon ton, trouver les bonnes images, etc., etc. C'est aussi une question de style. Moi, j'ai tendance à penser que la manière dont on écrit les choses, enfin, moi, je suis journaliste de presse écrite, mais la manière dont on raconte les choses est très importante pour que les gens comprennent justement comment les chercheurs ont travaillé, quelles questions ils se sont posées, quelle est la méthodologie scientifique. Comment ils ont réussi à obtenir un résultat, comment ils l'ont interprété, quels sont les doutes aussi, parce qu'il faut quand même dire une chose, la beauté de la science, c'est aussi de savoir dire, et la modestie de la science, c'est aussi de savoir dire, quand on ne sait pas, je ne sais pas. Et je ne sais pas, ça veut dire, on n'ouvre pas la porte à toutes les théories plus ou moins délirantes. C'est vrai que les gens ont envie d'avoir des réponses à leurs questions, mais c'est bien aussi de savoir leur dire à certains moments, là, on ne sait pas. Il va falloir laisser du temps aux chercheurs pour travailler. C'est très important parce qu'on parlait tout à l'heure du nouveau variant. Effectivement, tout le monde a envie d'avoir la réponse, de savoir est-ce qu'il est plus dangereux, plus ceci, plus cela. Il faut laisser du temps aux gens pour... Et je pense que là, notre erreur à nous, ça peut être parfois aussi de tomber dans le piège, d'essayer de donner des réponses à des questions dont on sait qu'on n'a pas les réponses.
Léa, sur cette question de storytelling, c'est important. Vous faites des vidéos notamment sur la chaîne YouTube du Monde, mais aussi sur d'autres chaînes YouTube. Le storytelling, ça fait partie intégrante de ces vidéos de vulgarisation scientifique.
Oui, tout à fait. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Pierre. C'est vrai que c'est très important de ne pas être simpliste et la manière dont on le raconte, c'est aussi très important. Et je crois que je pense profondément que tout le monde est capable de comprendre à partir du moment où on l'explique et je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête au moment où on écrit. Donc, il faut pas... Moi, je trouve qu'il ne faut pas forcément avoir peur du jargon. À partir du moment où on va l'expliquer avec des choses auxquelles les personnes qui regardent ou qui lisent vont être capables de se raccrocher. Et après, bah, forcément, pour garder l'intérêt dans ce qu'on est en train de présenter, disons, pour garder l'attention du spectateur ou du lecteur, évidemment, il faut faire appel à des notions de storytelling. C'est ce qu'on apprend justement en journalisme. Et après, on va avoir différentes options et chaque écriture va correspondre à un public spécifique et il va y avoir des attentes et des lecteurs et des auditeurs pour chaque type de vulgarisation qu'on va pouvoir trouver aujourd'hui sur Internet, je pense.
Et par exemple, pour vous, pour vos vidéos, je sais pas, c'est quoi, ça commence par une anecdote, par exemple, il faut utiliser de l'humour.
Alors, il n'y a pas de recette miracle. En tout cas, il n'y a pas de recette qui se prête à toutes les vidéos. Ça va vraiment dépendre du sujet. Et oui, il y a toujours une accroche, en général. Et sur YouTube, en tout cas sur les chaînes de vulgarisation qu'on voit émerger, c'est souvent l'humour qui va aider à avoir cette accroche et qui va aider aussi à maintenir l'attention, en tout cas à faire rire et à peut-être parfois dédramatiser certains sujets. Après, par exemple sur la chaîne du Monde, on va beaucoup faire appel au visuel aussi et à une écriture très visuelle et avec une voix off qui va nous guider et qui va nous permettre de garder l'attention jusqu'au bout de la vidéo.
Julien Picard-Monnet, dans votre média Curieux, comment on captive, on explique, on garde le spectateur ?
Alors la particularité de Curieux, il faut le savoir, c'est qu'on est sur du format ultra court. L'objectif étant d'aller chercher des publics qui ne s'intéressent pas du tout à la science. Donc on a les codes de médias hyper généralistes. On n'utilise jamais le mot science, parce que justement, Pierre parlait de la peur de science. Moi, j'appelle ça la violence symbolique. C'est-à-dire que certains ont vécu des mauvais moments en cours de science, au lycée, au collège. Et donc, le soir, n'ont pas envie de se remettre dans la science après avoir une dure journée de labeur. Et donc, l'idée, c'était de se dire, bon, on peut parler de science sans le mettre devant le magasin, l'afficher. Et donc, on utilise des formats courts avec cette idée d'aller chercher ce public-là, le hameçonner avec un sujet, aiguiser sa curiosité et lui pousser vers d'autres choses plus costauds. Donc, c'est par exemple des articles de médias comme Le Monde que l'on met en lien quelquefois pour aller plus loin. Ça peut être des vidéos sur YouTube, ça peut être plein de choses, voilà. Et en termes de narration, comme on fait, en fait, nous, on joue avec les algorithmes, pour être très honnête avec vous, notamment sur TikTok. Parce que sur TikTok, on essaye de comprendre comment l'algorithme fonctionne. Parce que si votre vidéo a suscité l'intérêt sur TikTok, elle est poussée. Si elle n'a pas suscité intérêt, elle n'est pas poussée.
Mais quand vous choisissez vos sujets, donc là, c'était peut-être une surprise que cette vidéo fasse autant de vues.
Oui.
Le but à chacun, que ce soit sur un média écrit comme Le Monde, mais autrement sur YouTube, le but, c'est de faire des vues, mais j'imagine, c'est pour ça que vous êtes là, de traiter tous les sujets de façon intelligente.
Tout à fait, donc c'est par rapport à l'angle, en fait, tout simplement. Donc c'est pareil sur YouTube, c'est la même chose, hein. C'est les toutes premières secondes qui vont jouer. Et donc dans les premières secondes, il faut avoir trouvé l'angle qui va se raccrocher à ce que pense le grand public. Donc ça peut être une question du quotidien ou tout simplement une petite scène un peu marrante ou une réaction à une actualité. Mais tout va se passer dans les 3-4 premières secondes. Et c'est là où, pour reprendre un terme de TikToker, il faut que votre accroche soit catchy. Voilà.
Le fameux storytelling qui permet d'intéresser les gens.
Et après, tout est dans la montage pour réussir à amener les gens jusqu'au bout de la vidéo. Et là, on est donc complètement dans les codes de YouTube. Tout est pareil, hein, je veux dire. C'est essayer d'amener les gens d'un point A à un point B, quoi, jusqu'à la fin, sans les perdre.
Donc là, vous, votre but avec Curieux, c'est de parler de science sans en parler vraiment, avec des sujets du quotidien pour apprendre des choses.
Du quotidien et aussi d'autres sujets, vraiment tous les sujets liés à la science est partout. Donc, on peut parler de tout, en fait, globalement.
Alors, l'information scientifique est aussi devenue un nouveau terrain de lutte économique et géopolitique. Comment, en tant que journaliste, on ne se fait pas manipuler? Comment on fait la distinction entre compétence et militance? Comment on sépare et on arrive à séparer le journalisme de la communication? Quelles sont vos techniques, Pierre?
Oh, j'ai envie de dire que c'est très simple. Il se trouve que, effectivement, en tant que journaliste scientifique, je fais ce que Léa a dit tout à l'heure. Je m'intéresse beaucoup aux études scientifiques. J'en fais beaucoup de comptes rendus et effectivement, je m'adresse essentiellement à des chercheurs. Donc, soit les chercheurs qui ont rédigé les études, soit des chercheurs extérieurs qui n'y ont pas participé et qui les commentent. Et donc, c'est assez simple d'éviter toutes les campagnes de com, même s'il y a aussi des com, parce que de la communication, il y en a avec les organismes de recherche ou avec la NASA, qui est très forte pour ça dans le milieu spatial, par exemple. Donc, on sait que, de toute façon, même en tant que journaliste, on est ciblé par les services de communication de ces organismes. Mais bon, après, on fait tous nos choix. Je veux dire, on essaie d'estimer si c'est intéressant, si c'est important, parce que c'est quand même ça la marque du Monde, c'est hiérarchiser l'information, savoir ce qui vaut le plus, ce qui est le plus intéressant, ce qui va marquer l'histoire de la science, ou en tout cas qui sera une étape décisive dans tel ou tel aspect de la science, ou si la découverte est passionnante, parce qu'il y a aussi en archéologie par exemple des découvertes qui vraiment intéressent le grand public, parce que ça répond à des questions profondes sur les origines des gens. Et il y a la même chose en astronomie d'ailleurs, la question des origines, elle se pose exactement de la même manière. Donc voilà, je dirais que le plus simple et le plus sain, c'est de laisser la parole aux chercheurs.
Donc, quand vous voyez un sujet émerger ou que vous recevez une étude, par exemple, mon premier réflexe, ça va être donc de faire des recherches, bien entendu, mais aussi de contacter des scientifiques.
Oui, bien sûr. Non, le premier réflexe, ça va dire, c'est surtout, comment je le sens? Je suis désolé, c'est très égoïste, mais c'est quand même très, très important. C'est bon, voilà, là, ce mois-ci, je fête mes 25 ans de journalisme scientifique. Quand on a un peu cette expérience-là, on sait aussi quels sont les sujets qui vont intéresser. Il y a aussi une question d'intérêt personnel. Moi, si le sujet ne m'intéresse pas, en général, j'essaye d'éviter de le faire, quoi.
Parce que le but, c'est quand même d'être lu, au final.
Le but, oui, bien sûr que le but, c'est d'être lu. Alors, on est peut-être un petit peu moins soumis à la dictature de l'audience que chez certains autres médias. Bien sûr, on écrit pour être lu. Mais ce qui compte d'abord, c'est de donner les informations qu'on juge essentiel. Et si l'information qu'on juge essentielle est un peu rébarbative, eh ben tant pis, on le fait quand même. Voilà, donc on n'est pas à la recherche effrénée du buzz à tout prix, parce que on sait que c'est dangereux d'une part, et qu'on risque de passer à côté de découvertes importantes, mais même si elles sont au premier abord difficiles à percevoir.
Et vous, Léa, comment vous choisissez vos sujets, donc principalement sur YouTube, alors actuellement sur le YouTube du Monde, mais aussi sur plein d'autres chaînes YouTube? Comment vous déterminez ce qui pourrait être intéressant, vous intéresser?
C'est souvent ce qui m'intéresse moi que je propose. Ou en tout cas, l'idée, c'est vraiment de se maintenir au courant de ce qui se passe. Et après, il faut distinguer l'envie d'être lu et l'utilisation d'une accroche, d'un angle qui va peut-être être plus sexy ou en tout cas faire appel à quelque chose qui se raccroche au quotidien. C'est tout l'art de la vulgarisation, c'est arriver à trouver un sujet qui peut-être n'est pas très, alors j'utilise le mot sexy, mais en tout cas n'est pas très accrocheur à la base quand on lit, mais qui fait partie d'une connaissance essentielle qu'on a envie de diffuser parce qu'on trouve ça intéressant. Et à partir de ça, trouver un angle pour que ça accroche et qu'on arrive à faire à délivrer cette information aux gens.
On parlait tout à l'heure de TikTok. Internet et les réseaux sociaux ont permis une circulation plus horizontale, on va dire, de l'information. Comment vous vous positionnez par rapport à cela, et notamment pour les sujets scientifiques?
En fait, quand Curieux était créé il y a 3 ans et demi, c'est parce que, notamment, les centres de sciences n'étaient pas présents sur le digital, et donc, du coup, ne prenaient pas la parole pour diffuser une information qui était vérifiée. Et il y avait d'autres gens qui le faisaient bien, alors plein de vulgarisateurs YouTube, mais il y avait aussi d'autres gens qui racontaient n'importe quoi. Et donc, l'idée, c'était de se dire, on y va, et on va traiter plein de sujets différents, et on va montrer le fonctionnement des vaccins, enfin, plein de choses comme ça, et on se lance. Pourquoi les réseaux sociaux, c'est essentiel? Tout simplement parce que vous pouvez aller chercher un public qui ne va pas dans les musées, par exemple. Parce que, mine de rien, dans les musées, vous avez souvent, c'est des gens, soit dans des voyages scolaires qui y vont, donc les enfants, soit des gens tout simplement qui ont des enfants et qui emmènent leurs enfants en tant qu'adultes et qui aiment ça et qui ont envie que les enfants s'intéressent à la science. Mais il y a plein d'autres gens, encore une fois pour la violence symbolique, se disent qu'un musée, c'est pas pour eux. Donc, comment on fait quand on est à un musée pour parler à ces gens-là? Dans le cadre de l'intérêt général, les réseaux sociaux, c'est parfait. C'est un canal et vous pouvez en plus aller chercher des gens, non seulement dans leur vie quotidienne, là où ils sont, mais en plus plusieurs fois par jour. Sur Curieux, on publie 6 contenus par jour sur Instagram, 3 contenus sur TikTok. Donc on a une relation qui se crée avec ces gens-là et on devient tiers de confiance, quelque part. Et donc très régulièrement, on reçoit des mails de gens qui nous posent des questions de leur vie. Alors souvent c'est sexuel, je vais pas vous mentir. Donc du coup, on leur dit allez voir un médecin en fait, parce qu'on n'est pas médecin et que globalement c'est pas notre rôle de faire ça. Mais en tout cas, ça montre qu'il y a tiers de confiance.
La relation se crée.
Et sur TikTok, beaucoup, on est tagué sur des vidéos en fait d'ados qui nous taguent et qui en disant Curieux Live, t'en penses quoi? Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Donc ça c'est ces petits indices qui nous laissent à croire qu'il y a une relation qui se crée. On devient un peu le tiers de confiance, et contrairement à un musée où on voit une à deux fois par an peut-être, là c'est sur le continu, 365 jours par an. Donc c'est intéressant et il faut y aller.
Léa, sur YouTube, les spectateurs peuvent aussi poster des commentaires sous les vidéos. Quand on a des chaînes comme ça, comme vous, vous lisez ces commentaires, vous répondez aux questions, vous tenez compte en tout cas des retours?
Oui, je lis en général les premiers commentaires parce que c'est les personnes qui sont très attachées à la chaîne, ou en tout cas qui ont peut-être allumé, enfin mis en place une notification. Et donc les premiers sont en général soit très gentils souvent, et peuvent être aussi intéressants, peuvent apporter des notions, des fois voir une petite erreur qui s'est glissée. Et après, au bout d'un moment, on peut pas tous les lire. Sur la chaîne du Monde, clairement, on en a vraiment beaucoup. Mais j'essaye de temps en temps de retourner sur les vidéos d'expliquer, de commenter les choix, parce que parfois on a des commentaires qui n'ont pas forcément compris pourquoi est-ce qu'on avait adopté tel angle ou qui notent une erreur qui n'en est pas une. Alors c'est la moindre des choses de dire si on a fait ça pour ça, ou n'hésitez pas à aller voir ce contenu-là. Il y en a qui posent des vraies questions très intéressées aussi. Pareil, si on a de quoi leur donner à lire ou à s'instruire pour aller plus loin, en fait, souvent on essaye de le faire, que ce soit sur la chaîne du Monde ou sur les autres chaînes, j'essaye de le faire.
Et Pierre, dans le journal, donc on est sur Internet, les articles sont publiés aussi sur Internet, vous avez peut-être moins cette relation directe au lecteur, comment on tâte le pouls?
Alors oui et non, parce qu'en fait, comme vous le disiez au tout début, j'ai tenu un blog pendant très longtemps, et il se trouve que j'ai modéré à la main plus de 50 000 commentaires.
Donc, modérateur professionnel,
voilà, c'est ça,
deuxième métier.
Parce que ça faisait partie du du job, on va dire, de vérifier que tout ce qui se disait était conforme à la loi, parce qu'il y a des lois aussi sur ça. Et c'est passionnant, parce que d'abord, on se rend compte du rapport et de la relation qui s'établit entre le journaliste et l'électeur. On se rend compte des débats qui intéressent les lecteurs, parce que parfois, je les laissais débattre entre eux, ils se parlaient entre eux, et moi, je n'intervenais pas à partir du moment où ça restait courtois. Donc, si on peut, en tant que journaliste papier, ancien journaliste papier, en tout cas, s'intéresser, oui. Même dans les articles qu'on publie sur le web, on a des commentaires. Et je conseille quand même toujours d'aller regarder quelques-uns, même si parfois c'est un peu désagréable parce qu'on se fait beaucoup critiquer pour des raisons X ou Y. Et parfois, il y a beaucoup de mauvaise foi. Et parfois, c'est aussi justifié. Donc, il y a des gens qui posent des vraies questions. Je conseille vraiment à tout le monde de faire ce petit exercice. Pas forcément âgé continu, parce que là, par contre, ça risque d'être assez... démoralisant par moment, mais oui, il faut le faire. On peut très bien se rendre compte de à qui on a affaire quand on lit ces commentaires.
Oui, Léa. Et d'ailleurs, moi, ce que je fais souvent, c'est que je reviens beaucoup plus tard sur les vidéos pour voir les derniers commentaires. Ça nous apprend aussi comment les gens sont arrivés sur cette vidéo. En général, donc quand une vidéo est sortie depuis bien longtemps, c'est la longue traîne, en fait, les gens qui sont arrivés là par hasard. Et c'est intéressant de savoir comment ils arrivent là et quels ont été les moteurs pour arriver là et donc quelles questions ça leur a posé pour qu'ils arrivent à regarder cette vidéo.
Par exemple, sur la chaîne Vidéo du Monde, les journalistes sont généralistes et pourtant ils traitent de sujets scientifiques. Est-ce que des fois, peut-être là c'est aussi une question pour Pierre, est-ce que des fois aussi le fait de ne pas être peut-être spécialiste d'une rubrique, ça permet d'avoir aussi ce regard peut-être presque côté public pour se dire bon bah là il y a telle ou telle actu à traiter. Si moi, je ne comprends pas, il est possible que le public ne comprenne pas et donc je vais simplifier ou essayer de trouver encore plus d'explications.
C'est intéressant d'avoir ce recul-là. Quand on est trop proche d'un sujet, souvent, on a du mal à peut-être hiérarchiser les informations et dire à quel point cette information est plus importante à délivrer que celle-ci. Moi, je donne toujours l'exemple du jour où j'ai dû vulgariser ma thèse sur une vidéo, c'était pour le CNRS, dans la série Zeste de Science. Et il y avait un sujet qui était très proche de ma thèse et que je connaissais très bien. Et ça a été pour moi le plus difficile à faire. Parce que j'avais beaucoup de mal à dire « Ah ben ça non, on va pas le dire, c'est pas ce qui est le plus important, etc. » Quand on traite du coup un sujet et qu'on n'est pas du tout spécialiste, on va avoir plus facilement peut-être cette hiérarchisation. Le risque, évidemment, ça va être si on n'est pas du tout formé aux sciences ou pas du tout sensible ni au fonctionnement, ni à la méthode scientifique. Dans ce cas-là, on peut éventuellement faire une mauvaise hiérarchie, justement. Et puis, bah, après, on va avoir tendance à tomber dans les écueils dont on a déjà parlé. Ceux de ne montrer que le résultat, de ne pas laisser la place au doute et éventuellement de ne pas respecter le consensus scientifique. Et ça, c'est un autre problème. Je ne sais pas si je peux en parler.
Bien sûr.
Et ça, c'est un autre problème dans les médias, peut-être. C'est que le consensus scientifique, ça représente ce que la majorité des scientifiques vont... Enfin, ce sur quoi la majorité des scientifiques vont s'accorder. Et malheureusement, quand on a besoin de faire un débat, classiquement, on invite un pour un contre. Sauf que ça n'est pas représentatif de ce qui se passe en science. En fait, il faudrait pour ça inviter autant de personnes qui sont pour que de personnes qui sont contre. Donc si on prend l'exemple du réchauffement climatique, bah, il faudrait 99 climatologues versus un climato-sceptique, et encore. Et ça, c'est pas possible sur un plateau télé, par exemple, ou dans un article ou une vidéo où on fait la balance entre pour et contre. Donc, mettre en débat des sujets scientifiques, ça, c'est toujours un écueil dans les médias. Parce que, à cause du vrai consensus sur lequel tout le monde est censé s'accorder.
Tu es d'accord, Pierre ?
Complètement. Il se trouve que j'ai eu une petite expérience il y a quelques années. Je collaborais à France Inter dans l'émission de Mathieu Vidard et je lui ai quand même fait remarquer qu'il y a un moment, il fallait qu'il arrête d'inviter un climatologue et un climato-sceptique en face parce que, comme vient de le dire Léa, ça n'était absolument pas représentatif ni du monde de la recherche, ni du consensus scientifique sur le sujet.
Tes paroles n'ont pas le même poids, en fait.
C'est difficile de dire ça comme ça, mais... Voilà, si on veut faire les choses de manière rigoureuse, Il faut le faire de manière représentative. Et donc, cette espèce de désir de confrontation qui vient beaucoup des médias anglo-saxons, c'est un contre un, ben c'est extrêmement trompeur, parce que vous pouvez avoir... je me souviens très bien de l'époque où Claude Allègre, qui était climato-sceptique, qui était une bête de scène, de plateau, débattait avec Valérie Masson-Delmotte. Alors, elle avait eu énormément de courage d'aller affronter. En plus, elle était vraiment jeune à ce moment-là. Et lui, c'était quelqu'un de très imposé. Et elle avait eu le courage d'aller sur le plateau pour expliquer à la France entière que, grosso modo, il disait n'importe quoi. Et c'était compliqué, quoi. Et le problème, c'est que ce débat, finalement, n'aurait jamais dû avoir lieu, tout simplement parce que vous aviez quelqu'un qui faisait de la fake science avant l'heure.
Et c'est même pas une question de poids de la parole qui serait plus ou moins grande en fonction des personnes. C'est simplement que, dans la construction même de la science, justement, la méthode scientifique repose sur des faits et pas sur des opinions. Du coup, on va accumuler un certain nombre de faits, faire des hypothèses qu'on va pouvoir démontrer et soumettre ces hypothèses à la revue par les pairs. On va avoir des gens qui vont pouvoir dire si oui ou non ils sont d'accord. Et au bout d'un moment, on arrive à construire et à se mettre d'accord sur une notion qui devient le nouveau précepte, mais en tout cas la nouvelle base d'accord de science, donc ce qu'on appelle le consensus scientifique. Et donc quelqu'un qui représente ce consensus, quelqu'un qui adhère à ce consensus, au final, il représente la grande majorité des gens. Et donc c'est pas que sa parole a plus de poids, c'est qu'il est représentatif.
Concernant le public, Julien Picard-Monnet, lorsque vous m'avez envoyé les chiffres d'audience de Curieux, il y en a un qui a attiré mon attention. Votre audience est majoritairement féminine, avec plus de 76% de femmes contre 23% d'hommes. Je vous avoue que ce chiffre m'a étonnée, car on dit souvent que les sciences intéressent davantage les hommes. Alors, quel est votre secret ?
Alors, à précision, c'est sur Instagram, je précise. Sur TikTok, on est à 50-50. Mais globalement, il faut savoir que c'était la commande de départ. Quand le média a été lancé, et donc je suis rattaché à des centres de culture scientifique, technique et industrielle, donc des centres de sciences en Nouvelle-Aquitaine, il y a une des missions majeures de ces centres-là, c'est de féminiser les métiers scientifiques, recherche, technique et industrielle. Parce qu'il y a un vrai déficit, en fait, il y a quasiment que des mecs, et c'est vraiment, ça devient un vrai sujet. Et donc, dans la commande de départ, quand on a lancé Curieux, c'était de se dire comment on fait pour essayer de... Je vais reprendre l'expression « hameçonner », le public féminin pour essayer de l'intéresser à des sujets. Et donc, en fait, je pense que notre recette, ça a été d'utiliser certains formats qui intéressent peut-être plus le sexe féminin. Je dirais notamment tout ce qui est graphique, illustration, je pense. Encore une fois, là, je m'appuie sur aucun élément de recherche. Hein. C'est du ressenti, c'est mon ressenti à moi. Également aussi sur certains sujets angles. Et notamment, on a beaucoup traité, parce que c'était dans l'air du temps, au tout début de Curieux, tout ce qui était endométriose, plein de maladies et de problèmes qui étaient plutôt féminins. Et je pense que c'est comme ça qu'on a capitalisé et qu'on s'est créé une certaine image vis-à-vis de cette cible-là. Voilà, donc c'est ces deux axes-là qui, à mon avis, ont permis de livrer ce qu'on devait produire.
Pierre, lorsque vous faites des interviews, notamment de chercheurs, c'est très dur d'avoir des chercheuses.
C'est parfois compliqué d'avoir des chercheuses, alors que les messieurs acceptent facilement, plus volontiers en tout cas. Et c'est vrai que j'ai eu quelques expériences avec des chercheuses qui étaient parfaitement qualifiées pour répondre aux questions que je voulais leur soumettre et qui ont décliné l'invitation en se trouvant pas légitimes sur le sujet. Et c'est vraiment quelque chose que je regrette, et je leur ai dit d'ailleurs, parce que des hommes qui avaient exactement les mêmes qualifications qu'elles et qui n'étaient pas forcément plus pointus sur ces sujets-là, eux, ils acceptaient volontiers. Voilà, bon, c'est vraiment problématique, cet aspect-là. On essaye vraiment de le combattre. Hein. On essaye de convaincre les femmes. On fait aussi tout, nous, pour s'adresser de plus en plus à des chercheuses. Il y a aussi un site internet qui s'appelle Les Expertes qui a été créé pour ça, et on s'appuie régulièrement dessus.
Parfois, on peut reprocher à ce qu'on appelle les youtubeurs, du coup, de traiter des sujets un peu trop sensationnalistes pour faire des vues, de diffuser des informations qui ne sont pas forcément tout à fait exact. Si vous êtes là, c'est que vous n'en faites pas partie. Mais en tout cas, que répondez-vous à ça ? Aux gens qui pourraient douter des youtubeurs vulgarisateurs scientifiques ?
Léa ? Je dirais, regardez les sources. Demandez les sources.
Qui sont souvent indiquées d'ailleurs sur les vidéos.
C'est souvent disons que ce serait le conseil que je donnerais. Si vous n'êtes pas sûr de ce qu'on vous dit, allez voir et lire en détail d'où viennent les sources et essayez de voir la qualité des sources, parce que toutes les sources ne se valent pas. Et puis, regardez plus généralement ce qui se dit sur ce sujet-là. Il ne faut pas se contenter d'une seule opinion. Mais si c'est une opinion, si c'est un consensus, bon. Et sur les youtubeurs en particulier, je dirais qu'aujourd'hui, collectifs qui se sont montés, le Café des Sciences par exemple. Je dirais que c'est pas le gage de qualité, il est pas sur la forme, il est sur le contenu. Et on peut très bien faire des choses très drôles ou avec des angles un peu originaux et puis donner de la science derrière, enfin des données, des connaissances scientifiques derrière qui sont factuelles et fact-checkées même.
Julien Picard-Monnet, Léa Bello l'a dit, un des conseils pour lire la science ou les sciences dans les médias, c'est peut-être des fois de vérifier, de lire les sources. Vous, quel serait votre conseil à donner aux lecteurs, aux auditeurs, aux spectateurs pour comprendre les articles scientifiques et leur faire confiance peut-être?
Alors, je dirais multiplier les sources. Parce qu'en fait, même si je serais ravi que tout le monde vienne sur Curieux et nous suive, je pense que c'est important d'aller un peu voir partout, de multiplier les sources, et puis aussi de se renseigner un peu plus sur les personnes qui produisent les vidéos et pas juste les subir, je dirais. Parce que le comportement, quand même, sur les réseaux sociaux, le comportement, c'est d'accueillir... c'est l'algorithme, encore une fois, qui vous propose des contenus. Et il faut pas non plus subir le contenu, il faut aussi être acteur, et puis remonter, voir qui vous parle, voir ce qu'il a pu produire par le passé, s'il a un pédigré positif ou négatif. Enquêter un petit peu, faire un petit travail d'enquête, et une fois que vous avez une forme de lien de confiance qui s'est créé, l'intégrer dans votre panel de sources d'informations, pour ensuite vous faire votre propre opinion, quoi.
Pierre Barthélémy, les conseils aux lecteurs?
Bon, je crois que tout vient d'être dit. En réalité, c'est multiplier les sources et vérifier les sources. C'est quand même la base de notre métier. Et c'est aussi ce qu'on devrait apprendre aux enfants à l'école. Parce que j'ai 4 enfants et souvent j'entends, mais je l'ai vu sur Internet. Donc, grosso modo, c'est le fameux vu à la télé, vu sur Internet. Donc, c'est vrai. Oui. J'ai dit oui, tu as pu le voir sur Internet, mais qui parle? Et c'est quand même toujours important de vérifier qui parle. Parce que, notamment quand on est enfant, on peut quand même assez facilement se faire manipuler. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette question-là, mais c'est vraiment important de vérifier toutes les sources.
Merci à tous les trois, c'est la fin de ce podcast. Merci pour ce partage d'expérience. J'espère, chers auditeurs, que ce podcast vous a plu. Retrouvez 4 autres épisodes de notre série La Fabrique du Savoir, produite en partenariat avec l'Espace Mendès France. Ils sont disponibles sur lemonde.fr et sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. À très bientôt.